Bretagne 5, écoutez la Bretagne. À voix haute, une émission de Meredith Ledez.
Bonjour, ce samedi dans À voix haute, je vous propose de découvrir un roman de Mariette Navarro, Ultramarin, paru chez Kidam Éditeur en 2021. Nous voici au milieu de l'Atlantique, avec l'équipage d'un cargo qui décide un jour de s'offrir une baignade en pleine mer, et le quotidien va s'en trouver bouleversé. Il y a les vivants, les morts et les marins. Ils savent déjà intimement à quelle catégorie ils appartiennent. Ils n'ont pas vraiment de surprise, pas vraiment de révélation. Ils savent, à chaque endroit où ils se trouvent, s'ils sont à leur place ou s'ils n'y sont pas. Il y a les vivants occupés à construire et les morts calmes au creux des tombes. Et il y a les marins. Dans le geste connu, le geste de travail, dans le geste refait chaque jour, un espace s'est glissé. Un tout petit espace blanc inexistant jusqu'alors, une seconde suspendue. Et dans la seconde suspendue, la seconde imprécise, toute la suite de la vie s'est engouffrée, a pris ses aises, a déroulé ses conséquences. Elle en a la conscience nette parce que c'est dans son corps que le petit écart s'est frayé un chemin. Elle n'a pas d'argument médical à avancer. Elle ne pourrait même pas dire que c'est grave, regrettable, ennemi, une traversée de soi par un lent courant d'air. Un souffle contre lequel il faut bander les muscles un peu plus fermement. Elle ne sait pas si la faiblesse a précédé la décision ou si tout est arrivé d'un coup quand, à la fin d'un repas, elle a dit « d'accord ». Elle ne sait pas si c'est à l'intérieur d'elle que se logeait le désir de céder, ou si quelqu'un dans l'équipage, d'un mot ou d'un regard, a pénétré sa froideur nécessaire. Elle croit que, maintenant, l'intérieur de son ventre est plus poreux au vent marin. Elle s'entend dire « d'accord » avec une voix qui n'est pas tout à fait la sienne, pas sa voix de travail, sa voix de commandante. C'est un son plus aigu, mal placé. Elle, qui est très attentive à ça, elle s'aperçoit en les disant que ces deux mots n'ont pas eu le temps de venir du ventre. Ils sont nés directement dans sa gorge et ont éclos publiquement. D'accord. Alors, si sa voix a dit, elle n'a plus qu'à suivre, elle n'a pas l'habitude d'être en désaccord avec elle-même. Entre ses pensées et ses paroles jusqu'ici, il n'y avait jamais eu de décalage. Comme elle est calme et sûre d'elle, elle se laisse faire par cette voix de gamine qui déboule au milieu d'un repas. Elle se racle la gorge et répète de sa voix de dirigeante, avec son poids d'autorité, « d'accord ». Il n'y a pas qu'en elle que se promène le souffle. Depuis plusieurs jours, elle entend la rumeur, les rires étouffés. Elle s'est laissée surprendre par la bonne humeur expansive d'un équipage qu'elle croyait bien connaître, qu'elle avait recruté pour sa stabilité et le sérieux dont elle a besoin. Comme à chaque fois, avant l'embarquement, elle a tout fait pour équilibrer les tempéraments des marins qui l'accompagnent. Un dosage d'une rigueur chimique, alors que sa prédisposition, c'est plutôt la mécanique. À chaque départ, elle sait qu'elle prend le risque du précipité, des sangs qui s'échauffent après plusieurs semaines de cohabitation, des rancœurs ignorées, des alcools tristes, des envies d'en finir, des nuits trop longues, des corps qui s'effondrent sous le poids des solitudes. Mais l'amitié soudaine, la joie d'être complice, elle ne les a pas anticipées. Elle est assez désorientée pour ne pas savoir si elle doit y prendre part. C'est ça son sourire bizarre et sa voix augmentée d'une octave. Elle a fini par accepter qu'on parle plus fort, qu'on rit plus, que les regards se cherchent et que chaque mot de l'un soit approuvé par un autre. Elle s'est assurée, comme elle le fait toujours, que les éclats de rire se partagent de manière équivalente, que personne ne soit oublié dans la distribution de la légèreté, qu'aucun membre de l'équipage ne fasse l'objet involontaire de la jovialité des autres. Elle s'est même laissée aller à frôler une épaule. Pour un peu, au bout de quelques jours, elle aurait serré l'un ou l'autre dans ses bras sous la lune. Elle commande depuis plusieurs années, 3 ans sur ce navire, avec de nouvelles équipes régulièrement et plusieurs mois à terre entre 2 convoyages, cette autre vie qu'elle oublie, à peine montée sur le bateau, à peine son sac posé dans sa cabine. Sur ce trajet, la route est facile, surtout en cette saison. L'aventure, c'était pour ses lectures d'étudiante, pour les récits qu'elle invente dans les soirées à terre, quand on réussit à la faire parler d'elle. La plupart des officiers, elle les connaît depuis l'école. Ils fonctionnent ensemble sans trop avoir à dire. Elle est fille de commandant et jamais il n'a été question d'une vie terrestre. Dès le départ, elle en a trop appris sur les bateaux pour se détourner de la mer. Elle appartient à l'eau comme d'autres ont la fierté d'origine lointaine. Il n'y a jamais eu lieu de rompre, de rejeter. Elle a fait le choix de la navigation, ce savoir d'êtres humains, le choix des bricolages antiques et des machines modernes, des chiffres et des sensations, des abstractions cosmiques et du soleil au visage. Ce qui lui a donné un âge, une densité. Elle a observé le travail des autres, des hommes, avant elle. Elle a appris tout ce qu'il faut apprendre et fait ses preuves sous les regards exigeants, parfois condescendants, méfiants. Elle n'a brûlé aucune étape. Elle est étrangère à l'idée de privilège, à autre chose qu'au lent respect des procédures. Elle a découvert que le travail l'apaise, le temps rassurant du labeur. Avec sérieux, de haute lutte, elle a conquis son autorité. Pendant sa première traversée, elle n'a presque pas dormi. Elle était partout à la fois, voulait tout savoir. Pour un peu, elle aurait fait à la place de chacun. On souriait quand elle tournait le dos. On ne donnait pas long de sa carrière, de sa santé. On disait que le goût du métier d'homme finirait par lui passer, que quelqu'un saurait la retenir à terre dans une maison, à commander ce que les femmes commandent. On disait que pour le long cours, elle n'avait pas les bras costauds ni les bonnes hormones. Une seule fois, elle a serré le poing pour se battre. Elle aurait eu le dessus si la tension n'avait pas été désamorcée tout de suite, si une main ne s'était pas posée sur son épaule. Depuis qu'elle est celle qui donne les ordres et décide de la carrière des autres, on ne dit plus rien. Le féminin a fait son chemin dans les esprits, est entré dans les histoires comme le surnom d'autres marins célèbres. Petit à petit, la météo est devenue pour elle un sens plus aigu que les autres, et la cartographie précise aussi, avec ses petites croix tracées toutes les 20 minutes sur la grande carte du bureau pour marquer la position. À chaque nouvelle traversée, elle se voit sans surprise avancer vers le sud, avancer vers le beau, passer au large des dépressions en les évitant au mieux. Elle a appris le cours des étendues huileuses, le doux enveloppement des écumes vertes. Elle aime regarder les cartes, les connaît par cœur, les annote, les range. Elle les connaissait toutes avant de voyager, la beauté de leurs couleurs. Parfois, elle se lasse de la route prise, trop rationnelle entre 2 points, elle a des envies de lenteur. Alors, elle donne un ordre à la machine, perd sciemment 1 heure ou 2 sur l'approche de la prochaine terre. Ces dernières années, on cherche à naviguer avec elle. On sait que tout sera carré, que la mécanique humaine fonctionnera aussi bien que le moteur brûlant, qu'on pourra se laisser aller à une traversée sans tempête. On aime le calme qu'elle étend autour d'elle, et sans se le dire, on est soulagé d'être sous sa protection. Elle préfère les équipes resserrées, un ou deux officiers fidèles, pas trop bavards. Quand on lui demande avec qui elle veut embarquer, elle choisit les ours, les timides. Elle a repris la mer il y a un mois, remplacé un collègue au bord de la retraite, content de lui céder les périodes les plus longues, les Noëls et les étés, les moments de repos scolaire. Elle accepte tout, récupère le cargo où qu'il soit, reprend l'inventaire, rattrape les retards. Elle a l'impression depuis quelque temps de naviguer sur du velours, d'avoir trouvé dans son métier la fluidité d'une danse parfaitement exécutée. Le cargo, quand elle ferme les yeux, c'est son corps à elle, stable et droit, à en oublier les vagues. Sa cabine est la plus spacieuse, avec un grand bureau. C'est la plus calme aussi, même si régulièrement on y passe, pour la tenir informée d'un retard, d'une nouvelle alerte météo, d'un incident dans l'équipage. Elle s'est habituée à avoir une réponse pour tout, une voix adaptée à chaque chose, un masque pour chaque agacement. À chaque nouvelle traversée, elle reprend ses repères, se présente à l'équipage, aux passagers s'il y en a. Elle détecte les peurs, les premières fois sur la mer, devine les appuis qu'elle aura ou les jalousies à désamorcer. Elle ne serre pas la main. Elle ne touche à rien d'autre qu'au métal ou à l'étoffe de ses propres vêtements, quand elle croise les bras en dessous de sa poitrine. Elle attache ses cheveux juste en haut de la nuque. Ils tombent longs et droits jusqu'au milieu du dos. Quand elle se déplace, ils n'ondulent pas. Elle les tient à leur place, une ligne de plus parmi les lignes de son corps. Elle ne ferme jamais sa cabine à clé, elle doit pouvoir se tenir prête au moindre frémissement, à la moindre alerte. Elle dort tout habillée. Elle sait le souffle rauque des hommes de l'autre côté de la cloison. Elle dort très peu de toute façon. Quand elle se repose, c'est par souci du règlement. Souvent, c'est sur sa chaise qu'elle s'autorise à fermer les paupières, qu'elle se laisse aller au tangage. Le plus clair de son temps, c'est en haut qu'elle le passe, au centre de la passerelle, dans son fauteuil réservé. Elle veut voir avec ses yeux, avant la tranquille confirmation des appareils. Elle aime l'intimité de cet endroit, le calme et la concentration. Depuis quelques convoyages, un timonier roumain travaille à côté d'elle. Il ne parle français que pour donner les mesures et user de mots techniques qu'il s'applique à dire. Elle ne lui pose pas de questions, se contente de l'observer quand ce n'est pas à elle de surveiller l'horizon. Il est très jeune, comme la plupart des marins embarqués sur le cargo. Elle ne sait pas ce qui l'a poussé à la mer, celui-là comme tous les autres, ce qui l'a poussé à un métier si étranger, si éloigné de lui, qu'après plusieurs années, il vomit toujours quand les vagues s'emballent, que son regard face à l'océan parfois se vide d'un coup et panique. Le salaire, peut-être, ou la soif. Pourtant, c'est elle qui, le soir, boit un verre de vin, toujours à la même heure. Elle aime par-dessus tout quand la pluie balaie les vitres par rafale à ce moment précis. Alors elle détache ses cheveux, libère son crâne. Les officiers sont présents, mais l'espace d'un instant, elle relâche les épaules et son visage. Quand, dans ce dîner, après 4 jours de pleine mer, le second se penche vers elle et, avec une candeur qu'elle ne lui connaît pas, demande « On pourrait, hein, sans blague, couper les moteurs, descendre les canaux, s'offrir une petite baignade ?» Une voix sortie d'elle dit sans réfléchir « D'accord ». Répète « D'accord ». Un court silence suit, bien sûr, et puis un grand rire incrédule.
Mary. Like cherries, we go down to the river where the willows weep. Take a naked root for a lover's seed that rolls out of the bitten soil.
À voix haute, Meredith Ledez.
D'abord, il trace un cercle pour en être le centre. Un grand cercle englobant tout. Le bleu, ses masses noires, ses crépitements blancs, bornés par rien d'autre que l'horizon devenu rond. Depuis le bateau, ils tracent un cercle avec leurs yeux. Ils espèrent le silence. Leurs regards se perdent sur la courbe qui les entoure. Ils espèrent l'abstraction. Ils font de ce rond bleu un tissu rigide, un sol où faire leurs premiers pas. Ils plissent les paupières, maintiennent l'illusion jusqu'à l'apparition d'une vague, un clapotis qui de nouveau rend tout liquide, profond. Ils tracent un cercle à la surface. On dirait qu'ils prennent la mer pour du papier, leurs bras pour les compas de leur enfance. Ils ne se posent pas la question de ce qu'il y a en dessous. Ils recherchent la perfection du cercle et de la plongée en son centre. Ils imaginent les ondes concentriques que produira leur minuscule corps humain. Ils croient qu'on peut plonger dans un miroir sans être englouti par la vague, disparaître du côté du monde où la lumière ne passe plus. Ils espèrent le silence en coupant les moteurs. C'est sans compter avec le jeu de l'eau, ses battements sur la coque, la revanche du bruit du vent une fois les machines éteintes. Alors, tout ce qui grince et souffle n'est plus dû qu'aux forces mécaniques, aux rafales, aux masses d'eau, à l'acier ballotté par la houle et aux respirations des hommes en réponse à ces grands chuintements. Quand les moteurs s'arrêtent, ils perdent l'équilibre qu'ils avaient fini par trouver. Ils sont rétrogradés dans leur apprentissage. Ils redeviennent chiens fous, se cognant partout, vomissant leurs tripes, mais ils sentent comme une euphorie d'en être arrivés là. Tous sortent de leur cabine à l'heure convenue, sont fidèles au rendez-vous. Pas un n'a envisagé de faire faux bond. Ils ne sont libérés de rien, bien sûr, encore moins de l'inquiétude. Tendus, ils guettent la moindre anomalie, l'embarcation qui penche ou craque, une infiltration peut-être. Incertains de pouvoir déceler le danger quand il y en aura un, dépourvus de leurs réflexes. Pour se détendre, ils font de ce vacarme vidé de toute habitude une musique. Ils n'ont plus de métier quand ça s'arrête, plus de trajectoire programmée. Ils n'ont plus beaucoup de connaissances quand ils quittent les tableaux de bord. Sans chaussures le long des coursives, ils perdent de l'assurance. Mais ils aiment comme le soleil les brûle. Ainsi commence le travail des sensations. Ils se retiennent de glisser en se moquant d'eux-mêmes. Ils font de leur déséquilibre un nouveau jeu. Dans le tangage, ils se suivent sans commenter, posent leurs mains sur le froid des rambardes pour se rassurer, sensation connue. Ils rient un peu du frémissement identique qui se met à les parcourir tous. Ils avancent sur les ponts vers un des canaux en mesurant leur degré d'inconscience, en effleurant la question de la nécessité. Mais ils exécutent les gestes prévus. Déplier les échelles, s'agripper au cordage, se découvrir d'autres muscles dans la tension des bras, se préparer à descendre vers la mer. Ils se penchent et regardent, mesurent la dizaine de mètres qu'ils font qu'ils surplombent encore l'eau. Pour l'instant, le métal de la coursive est encore un morceau de terre où marchaient les pieds secs. D'un œil, ils vérifient le beau fixe programmé du ciel. Dans un reflet turquoise, tout doucement, ils se rassurent. Le passage des Açores a été le signal, le dernier contact avec la terre. Ils ont attendu de ne plus être en vue d'aucune côte, d'aucun bateau lancé dans son commerce. Ils ont débranché les radars. D'ici, aucun oiseau ne pourrait relayer la nouvelle de leur présence. Il s'assoit côte à côte dans un des canaux parce que la question ne se pose plus de passer de l'idée à l'acte, maintenant qu'ils ont atteint cette parfaite région d'eau calme, celle qu'ils évoquaient ces derniers soirs sur le pont sous la lueur de la lune. Ils s'étonnent des promesses qu'ils se sont faites si légèrement, mais ils se laissent descendre jusqu'à l'eau, jusqu'à ce qu'un petit choc leur signale qu'ils y sont. À quelques centimètres de la surface, ils n'ont plus qu'à passer les jambes par-dessus bord. Tout, maintenant, peut commencer. Abyssal Plain, ils se souviennent de cette indication sur la carte, de cette alliance de mots, poétique et effrayante, quand ils imaginaient que le fond les aspirait en ces lieux les plus sombres. Ils pensaient à ceux qui y plongent, rêvent d'y marcher, exploit plus rare que d'arpenter la lune. Eux n'ont des souvenirs que de baignades de plage, entrées prudentes dans le bord des vagues, villégiature surveillée, maillots adéquats, torpeur et écœurement léger du sommeil en pleine chaleur. Ou peut-être de la rivière, les pieds rencontrant les cailloux et l'équilibre à garder malgré la sensation de coupure. Alors, les deux pieds au milieu de rien et tout le corps qui suit. Tout en haut, à la passerelle de commandement, des doigts ont tapoté des jumelles, quelques longues inspirations ont été prises. Pas un mot avant d'être dehors, puisque le moindre son était enregistré. La position a été vérifiée et les radars, avant d'être éteints, ont confirmé qu'aucune embarcation n'approchait du cargo. Une cigarette a été fumée aux premiers instants du tangage, signe d'une fébrilité ou bien d'une jubilation. Depuis la passerelle, on a stoppé l'élan, piqué le cargo au centre du rond de tissu et fait, des tonnes de métal, un papillon mort, cloué, magnifique. Il commence donc par là, par la suspension. Ils mettent, pour la toute première fois, les deux pieds dans l'océan, se glissent dans l'eau, à des milliers de kilomètres de toute plage. Personne ne le saura jamais, mais c'est maintenant qu'ils naissent, de l'air vers l'eau, expulsés volontaires de leurs conditions verticales et de leur âge. L'espace d'une seconde, ils renversent l'ordre des choses. Peut-être que quelque part des oiseaux prennent leur envol à l'envers, ou qu'une rivière d'un coup remonte à sa source. Voilà ce qu'ils pressentent, en vrac, et chacun dans sa langue. Dans la cambrure parfaite de l'horizon, comme naissance, c'est beaucoup plus réussi que la première fois entre les murs carrés d'un hôpital, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, quelque part en Europe. Ils naissent adultes, et de leur plein gré, les pieds en avant, les bras le long du corps, et dans la gorge un chant retenu, un cri débutant. Ils glissent dans l'eau. Pointe des pieds, puis corps entier, douleur vive de la fraîcheur et du sel qui brûle, comme s'il était plus cuisant au contact des peaux. Cage thoracique compressée par l'immense océan. On dirait que la masse énorme et par endroits grise ne se laisse pas pénétrer si facilement. Il n'y a qu'à voir comment, depuis le départ, elle referme systématiquement l'eau derrière le cargo, qui pourtant met toute sa force pour la fendre. On ne la déchire pas comme un tissu. On n'y laisse pas d'empreinte comme dans le sable ou dans la neige. En y plongeant, on se condamne à l'invisibilité. En glissant, ils se demandent s'ils peuvent tous ressentir la même chose. Si l'océan joue aussi ce rôle-là, de relier les esprits entre eux quand les corps s'y ébattent, de conduire les impressions comme la foudre. Au moment de toucher l'eau, ils forment une équipe dans l'exaltation. Pour un peu, ça illuminerait les profondeurs marines, ce courant qu'ils ont l'impression de faire jaillir de chacun de leurs gestes. Ils sont sans envie de bravoure, sans aucune idée de l'heure qui suit. On dirait qu'il leur faut la première claque de l'eau pour faire ce voyage au présent. Ils sont sans intention de rien. On verra bien le geste qui arrive le premier pour les faire flotter comme ils peuvent, pour prendre ce qu'il faut de champ dans le rond déformé par la nage. On verra bien si le souffle suit, si le silence tétanise, si l'euphorie dans ce cas peut faire office de nageoire. À chacun son image secrète de liberté, à chacun son choc en changeant d'éléments. On voit sous leurs paupières passer des paysages, des vacances d'enfance, des plaines si vastes qu'on les croit préhistoriques, des pluies de déluge, des vélos lancés sous des soleils de plomb, des maisons minuscules cachées dans les rochers, des champs de tournesol et des champs de colza, des plages, des épices, des cabanes. Voilà les visages extatiques, abandonnés, les corps arqués par le plaisir, et chacun sait que c'est dans sa langue que la mer est la mer et l'océan puissant. On voit de quoi chacun est fait à sa façon d'entrer dans l'eau, les bleus sous la peau, les bosses oubliées, les dos abîmés. On reconnaît la jeunesse élastique ou les muscles éprouvés, les chairs aimées, caressées, et les corps que depuis trop longtemps on délaisse. Ce n'est pas tout à fait la même ouverture que chacun dessinera à la surface. Tous ne portent pas le même poids. Ils glissent pourtant sans choc, sans brasser d'eau plus qu'il ne faut. C'est à peine si un peu d'écume se forme autour des cuisses quand les jambes s'agitent. En une seconde, ils sont sous l'eau, les cheveux méduses, enfin livrés à autre chose qu'aux embruns, ondulent, libèrent de leur pression les crânes qui ne pèsent plus rien. L'eau dans les oreilles est un bourdonnement inédit, on dirait. Ils piquent en nageant un mètre ou deux en profondeur, entendent leur cœur battre aux tempes, perçoivent une autre sorte de silence. Ils ont quitté les sons de la terre et de la surface. Ils découvrent la musique de leur propre sang, tambour jusqu'à la liesse, percussion jusqu'à la transe. Son noir des apnées, symphonie des apesanteurs. Ils tenaient à la nudité, il semble maintenant que c'est ce qui a précédé l'idée. Une envie de nudité dans l'eau, une envie bête et précise, assez pour devenir leur obsession. La peau avant tout, la peau poussant à la folie, la peau cherchant la légèreté et la fraîcheur salutaire. Maintenant, elle s'érige, la peau, et se repaît de ça, de froid, de sel, de ballottement régulier dans les vagues même minimes. Dans la première minute, ils évoluent sous l'eau, font les étoiles et se propulsent. Ils ne s'orientent pas, ouvrent les yeux dans la mer à la recherche du cargo, de la grande ombre, de la coque gigantesque, et puis oublient ce qu'ils cherchaient quand le soleil scintille à la surface et que, lentement, ils en approchent leur visage, émergent, respirent. En glissant, chacun a pris son espace, recréé son propre cercle. Euphoriques, ils ne sont plus précautionneux, ne mesurent que la distance de leur tête à leurs pieds, la sensation d'étirement. Ils ne savent plus compter dans aucune mesure terrestre ou de navigation, tout occupés au plaisir de la dérive. Ils parlent et chantent, mais ne s'écoutent pas. Ils s'éloignent les uns des autres. Les 10 premières minutes, ils sont sans intention. Ils glissent dans l'eau et s'y déplacent avec des gestes désordonnés, nagent leurs nages inventées autour du canot, font la brasse sous l'eau, puis émergent en soufflant. Ils sont dans leur corps. Le noir de l'eau, quand on y plonge, redevient transparent. Ils ont une énergie venue d'on ne sait où. Ils voudraient tout essayer, tout voir, tout vivre. Leur temps est revenu à son point de départ. Ils crient à plein poumon pour en être bien sûr. Ils n'explorent rien d'autre que leur propre chair plongée dans le liquide, que leur propre résistance au courant dans cet océan de grand calme. Même si, à maintenir la tête à la surface, l'horizon se balance. L'une après l'autre, les vagues les cachent à la vue du bateau. Ils sentent alors ce que c'est de ne compter pour rien. Un peu de sel les aveugle, un peu de transparence les fascine, et cette couleur qu'ils n'avaient jamais vue avant, vert pupille. Ils sont émerveillés devant le moindre objet qui brille, même si ce n'est que leur propre cuisse qui capte la lumière. Ils saisissent que ce seront les secondes les plus pures, sans frayeur, ni ombre, ni nuage. L'instant, ils l'étirent, chacun dans l'eau dessinant sa propre trajectoire. Ils nagent de longs crawls inconscients. Ils savent que ce seront des minutes immortelles, les seuls peut-être avant longtemps, les seuls pendant lesquels ne pas se poser la question du retour et tracer son sillon droit devant dans une parfaite gymnastique. C'était Ultramarin, un roman de Mariette Navarro paru aux éditions Kidam Éditeur en 2021. Cette émission était réalisée, comme toujours, par Frédéric Guillon. Vous avez pu entendre en interlude musical une chanson de Nick Cave, Sad Waters. Et quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain dimanche pour une nouvelle émission à voix haute.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.